Chapitre 51. Janice Dern en a assez que cette petite connasse au visage constellé de taches de rousseur l'observe avec un sourire narquois. Elle lui a bien recommandé de ne pas ouvrir la bouche si elle ne veut pas qu'on la bâillonne avec du gros scotch, mais la gamine n'a pas besoin de parler pour la regarder avec insolence. Si Francine, la sœur aînée de Janice, n'était pas toujours vivante, elle se poserait sérieusement la question de savoir si elle ne s'est pas réincarnée dans ce putain de garçon manqué. Pour éviter toute tentative de rébellion, les 10 employés du ranch ont été enfermés dans l'écurie numéro 2, sous la garde de Pedro et Alejandro. Certains ont des conjoints qui s'étonneraient de ne pas les voir rentrer. Aussi les a-t-on autorisés, sous étroite surveillance, à prévenir leurs proches qu'ils travailleront tard ce jour-là. Très tard. Gérer la famille Landgren est plus compliqué. On les sent unis et solidaires, ce qui les rend dangereux. Le plus sûr moyen d'éviter qu'ils ne commettent des bêtises est encore de les séparer. Alexis Landgren est enchaîné à une chaise dans sa cuisine, sous la surveillance de Chris Roberts, et on a enfermé son mari dans les toilettes du rez-de-chaussée, pieds et chevilles entravés, puis reliés entre eux, afin de l'empêcher de se tenir debout. Paloma Sutherland, après avoir laissé Sally Jones au volant de l'escalade à l'entrée du ranch, surveille les deux petites dernières dans leur chambre. Daphné, qui a 8 ans, et Artemis, qui en a 6. Paloma sait s'y prendre avec les enfants, sans compter qu'elles sont trop jeunes pour avoir été pourries par leur sœur aînée, même si Daphné a eu des velléités de résistance au début. Janice a tenu à s'occuper elle-même de Laurie. Les murs de la chambre de l'ado sont couverts de posters de chevaux et de champions de skateboard multipliant les figures acrobatiques. Laurie a également punaisé au-dessus de son lit une affiche d'un marine en grand uniforme, la main posée sur la poignée de son sabre. Janice a attaché les chevilles de Laurie au pied de son fauteuil de bureau pour l'empêcher de se lever. Son poignet gauche est également retenu au bras du fauteuil à l'aide d'un lien en nylon. Janice a voulu l'humilier en lui laissant une main libre. « Comme ça, tu pourras te curer le nez. Tu as la tête à ça. Tu manges tes crottes de nez aussi. Ce serait bien ton style. Je sais que tu aimerais me faire un doigt d'honneur, mais si jamais tu t'amusais à ça, je me ferais un plaisir d'écrabouiller ton majeur en me servant de la crosse de mon pistolet comme marteau. Tu m'as assez fait chier comme ça. Fini de rigoler. » Laurie, loin de bouder ou de se recroqueviller de peur, fait preuve d'une indifférence stoïque sans quitter Janice des yeux. Sur les rayonnages sont alignés une centaine de romans pour adolescents. Janice n'en a pas lu un seul, pas plus qu'elle n'en connaît les auteurs, ce qui ne l'empêche pas d'examiner la collection de Laurie en laissant échapper des soupirs et de petits rires méprisants. Elle ouvre ensuite les tiroirs, les fouille en sortant certains vêtements pour mieux les étudier, puis laisse tomber à terre et piétine négligemment ceux auxquels Laurie doit tenir le plus. Elle finit par récupérer une chaise, s'assoit en face de l'adolescente et la dévisage sans un mot. Laurie pose sur Janice un regard vide et reporte son attention sur le bureau. « C'est quoi ? Tout ce merdier sur les murs de ta chambre ?» lui demande Janice. Laurie ne répond rien. « C'est bon, je t'autorise à me répondre. Drôle de piole pour une fille. Si ça me plaît, tes posters n'ont rien de féminin. La plupart des filles adorent les chevaux. D'accord, mais ça manque de trucs de filles. » Laurie garde le silence. « Quand auras-tu 13 ans ?»« Le mois prochain. Mais en quoi ça vous regarde ?»« Tu fais du skate ?»« Ouais. » »« À quoi rime ton t-shirt Semper Fi et ce poster d'un marine ?»« Tu as l'intention de t'engager dans les Marines ?»« Rien ne m'en empêche. »
Janice dévisage longuement le profil de l'adolescente.
« Si je comprends bien, t'es lesbienne ?»« Bien sûr que non. Une vraie fille aurait des posters de boys band dans sa chambre. »« Les boys band et les acteurs, c'est ringard !» se défend Laurie. « Alors, qu'est-ce qui n'est pas ringard ?»« Les groupes de filles et les actrices avec des jambes interminables et une bouche pulpeuse que tu pourrais embrasser ?»
Laurie pose sur Janice un regard noir.
Vous êtes dégoûtante.
Janice lui adresse un sourire entendu.
Alors, qui est cool dans la vie?
Les gens qui ont le courage et le cran d'agir au nom du bien.
Tu sais, il faut du cran pour avouer qu'on est lesbienne.
Je sais pas si vous avez remarqué, mais le marine sur mon poster est un mec. Un beau mec, capable d'assommer un bataillon de boys band.
Elle s'affronte du regard. Un art dans lequel Janice est passée maître. Sa façon de fixer les autres perturbe ses interlocuteurs. Et s'ils ont peur de la regarder, ils craignent plus encore de détourner les yeux. Un type avec qui elle est sortie brièvement lui a dit un jour qu'elle avait des yeux de tueuse. Un autre lui a expliqué que pendant l'amour, son regard brun-jaune était celui d'un prédateur en pleine jungle. Il trouvait ça sexy, jusqu'au jour où il s'est rendu compte qu'elle avait également un regard de prédateur en dehors des moments intimes. Elle prend ses critiques pour des compliments. Elle se sert de son regard comme d'un stylet à l'aide duquel elle transperce les autres, en particulier ceux qu'elle aimerait transpercer pour de bon. Comme l'ado ne baisse pas la tête, Janice se penche plus près encore, jusqu'à ce que leur visage se trouve à quelques centimètres.
Jane Hawke, t'aurait-elle parlé des implants cérébraux?
Glisse-t-elle dans un murmure.
À moins qu'elle n'en ait parlé à ton père, et que tu aies surpris leur conversation.
Je ne vois pas de quoi vous parler.
Non, j'imagine bien que même si ton père est au courant, il n'aura pas voulu t'effrayer. Je vais t'expliquer de quoi il retourne.
Sans quitter Laurie des yeux, Janice lui pose un doigt au niveau de la saignée du bras gauche. Laurie tressaille, mais elle ne répond rien et ne détourne pas le regard.
On te fait une piqûre à cet endroit-là, et on t'injecte le contenu de 3 ampoules, contenant des millions de machines minuscules qui remontent jusqu'à ton cerveau où elles se reconstituent sous la forme d'une toile alimentée par l'électricité du cerveau. On te donne l'ordre d'oublier la piqûre et tu oublies. Mais tu restes notre chose jusqu'à la fin de tes jours. Si on te demande de tuer tes sœurs, tu le fais. Si on te demande de te suicider, tu obéis. Fini la petite Laurie narquoise, fini les ricanements et les réactions insolentes. Il ne reste plus qu'une Laurie obéissante, prête à me lécher le cul si j'en ai envie.
Janice a la satisfaction de voir briller une lueur de désespoir dans les yeux de sa prisonnière qui ne peut s'empêcher de lui répondre d'une voix légèrement tremblante.
Si c'était vrai, vous m'auriez déjà fait votre piqûre.
Je te la ferai, avec un plaisir non dissimulé. Mais ce n'est pas moi qui décide.
Mon boss dit toujours qu'on doit choisir soigneusement nos esclaves. Il n'est pas prévu dans le scénario qu'on asservisse des millions de gens du jour au lendemain.
L'ado fronce les sourcils.
Quel scénario?
C'est sa façon de parler. Mais écoute-moi bien, Miss Chiard.
Si jamais je mets la main sur ces ampoules, que ce soit dans une semaine ou dans un an, je reviendrai. Je me fous de mon boss et de son scénario. Tu vas passer le reste de ta vie de merde à surveiller tes arrières, mais je peux t'assurer que tu ne me verras pas venir. Un jour ou l'autre, tu me lècheras les bottes.
Intimidée, l'adolescente baisse la tête. Elle finit par rassembler son courage.
« En tout cas, vous êtes qu'un tas de merde et une grande gueule !»
dit-elle en affrontant Janice du regard, un large sourire aux lèvres.
« Faut quand même être très con pour s'imaginer que les pommes de terre ont des graines !»
Janice n'est pas toujours capable de contrôler ses humeurs. Non pas qu'elle souffre d'une névrose quelconque, rien à foutre des conneries des psys, c'est juste qu'elle ne se laisse pas marcher sur les pieds et qu'elle n'aime pas les sales gosses comme cette Laurie qui se croit plus maligne que tout le monde.
Janice n'a pas l'intention de massacrer Laurie Longgreen comme la fait Egon avec l'autre cow-boy bourré.
Egon est si beau quand la rage l'emporte. Il exprime sa violence avec la grâce d'un maître de ballet.
Janice entend juste punir cette gamine de son insolence en lui enseignant les manières. Elle la gifle à la volée. Un aller-retour douloureux. Il faut bien que Laurie ait mal, si Janice veut qu'elle retienne la leçon. L'ado hoquette de surprise, sans lâcher un cri. Janice se lève et se rend dans la salle de bain voisine, où elle fait couler de l'eau froide sur sa main. À son retour, elle constate que la gamine reste de marbre. Un filet de sang s'échappe de la commissure des lèvres et dessine une traînée rouge sur son menton et le long de son cou. Janice décide de laisser mariner un peu sa prisonnière. Au lieu de reprendre sa place en face d'elle, elle se dirige vers les rayonnages et déchire les livres un à un. C'est à force de lire que cette petite peste a acquis son esprit rebelle. Exactement comme Francine, la sœur aînée de Janice, qui n'avait rien à envier aux méchantes sœurs de Cendrillon.